Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bienvenue sur Radio Immo et sur Radio Territoria, toujours en direct de la Porte de Versailles pour ce second jour du Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et nous allons parler des CEMOP, de la CEMOP, s'appuyer sur la relation public-privé pour porter des projets complexes. Pour ce faire, je reçois Olivier Toubiana. Bonjour.
Bonjour.
Responsable du département aménagement de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Et Nicolas Gravit, bonjour.
Bonjour.
Directeur d'EFAGE Aménagement et co-président du réseau national des aménageurs et également vice-président de l'UNAM. Et ma consoeur Cassandre Tarvic, bonjour.
Bonjour.
Rédactrice en chef adjointe News Tank City. Alors, on va peut-être commencer une question assez simple. Hein. Alors, je vais faire défiler les slides en même temps. Vous allez peut-être nous expliquer, Olivier, comment on en arrive à la CEMOP, en fait. Et après, on verra qu'est-ce qu'une CEMOP pour commencer.
Très volontiers. Merci beaucoup pour votre invitation. La CEMOP, c'est la troisième forme des entreprises publiques locales qui sont des sociétés privées dans lesquelles les collectivités locales sont actionnaires et qui sont toutes présidées par des élus locaux. Ce sont des formes de coopération entre la forme commerciale et l'intérêt général qui repose sur l'idée simple que pour mettre en œuvre les projets des collectivités, pour gérer des services publics, la meilleure façon d'atteindre une efficacité certaine et des grands niveaux de qualité tout en étant conforme à des objectifs d'intérêt général, c'est cette collaboration entre une forme publique et une forme privée. Et la CEMOP est née par une loi de 2014 qui vient s'inscrire dans l'idée que les collectivités parfois voient le contrôle de certains projets leur échapper. Ne sont pas assez impliqués dans la mise en œuvre, dans la gestion du contrat. Et donc, a émergé cette idée qu'on pouvait confier un contrat à une société dans laquelle la collectivité est un opérateur privé qui vient apporter son expertise, son ingénierie, notamment. Cette société va exécuter au mieux le contrat et cette société disparaîtra à la fin du contrat une fois qu'elle aura accompli sa mission. C'est la loi de 2014 qui a créé les CEMOP et qui a assez vite trouvé son public. Alors, aujourd'hui, 8 ans après cette loi, il existe en tout une quarantaine de CEMOP, pas qu'en aménagement. En aménagement, il en existe 3 et puis avec des belles perspectives de développement, mais surtout aujourd'hui dans les activités de réseau et notamment de réseau d'assainissement, d'adduction d'eau potable, où je pense qu'il y avait certains excès des concessionnaires qui se contentaient du minimum dans l'information des collectivités, que cette forme de coopération a trouvé vraiment à se déployer avec une implication forte. Je pense que le cas de la CEMOP de Châtenay-Malabry le montrera. La CEMOP, c'est un dialogue quotidien quasiment entre la collectivité et l'opérateur privé.
Alors justement, on va parler d'une CEMOP, vous l'avez citée, hein, à Châtenay-Malabry, CEMOP que vous avez visitée d'ailleurs, Cassandre. Je vous laisse poser vos questions à Nicolas.
Tout à fait. Donc la première CEMOP, si je ne me trompe pas, qui a été créée, était celle de l'opération de Châtenay-Malabry, l'écoquartier La Vallée. Peut-être que vous pouvez nous résumer un petit peu cette aventure et où est-ce que vous en êtes actuellement. Je crois que les premiers habitants sont arrivés cet été. Qu'est-ce que ça a donné?
Alors, c'est effectivement une très belle aventure. C'est la première CEMOP d'aménagement qui a été montée, donc 3 ans après l'approbation de la loi. Donc, une volonté claire du maire de Châtenay-Malabry, Georges Siffredi, à l'époque, aujourd'hui président du conseil départemental, d'être dans une situation de maîtriser, contrôler une opération d'aménagement très, très importante. Je vais en dire un mot dans un instant. Que la ville n'était pas en capacité de gérer toute seule et à chercher un moyen pour trouver un partenaire qui va l'aider à monter, à financer l'opération tout en la collectivité en gardant le contrôle. Je précise que dans le système juridique des CEMOP, ce qui est important, c'est que l'actionnaire privé de cette société qui a un objet unique peut être majoritairement privé. La collectivité publique en a au minimum 34% du capital et surtout là, la présidence de la société. Donc ça impose, ça oblige effectivement à des discussions permanentes entre les partenaires publics-privés. Donc c'est cet enjeu et ce mode de gouvernance qui a plu au maire et qui s'est lancé dans cette aventure. Il a fait toute une série de consultations juridiques au préalable. Il a monté le dossier d'aménagement. Et il a lancé un appel à candidature pour trouver l'opérateur privé, en l'occurrence Eiffage Aménagement, qui a remporté cette consultation en présentant une offre globale sur un projet d'aménagement. Donc l'expérience est très valorisante, puisque depuis 2017, donc ça fait 5 ans, c'est presque 6 ans maintenant, que nous travaillons sur le dossier. Nous avons livré la première tranche de l'opération. Alors, c'est une opération qui fait à peu près... C'est une énorme opération, c'est une vingtaine d'hectares, 2200 logements, 38 000 m² de bureaux, des commerces, des équipements publics, donc un mastodonte. Quand la première CEMOP pour le test, voilà, c'était un sacré pari. Et la coopération, c'est ça le plus important, entre la ville, les services de la ville et l'aménageur, la coopération au quotidien, les copiles hebdomadaires, le conseil de surveillance qui se tient très régulièrement, l'information mutuelle, fait que ça a fonctionné. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut que l'opérateur privé ait une vraie vision de l'aménagement et soit dans la perspective d'accompagner l'intérêt général, mais il faut surtout que côté ville... La ville s'implique, c'est-à-dire que la ville soit en capacité de prendre avec l'opérateur privé toutes les décisions quotidiennes, comme les décisions stratégiques. Et donc, il faut que le maire sache de quoi il parle et qu'il soit un peu compétent dans les domaines qui vont le concerner. C'était le cas Châtenay-Malabry. Et sinon, ça ne fonctionne
pas. Donc, ce n'est pas possible partout, bien. Au final.
Bah, c'est possible partout, mais il faut vraiment que tout le monde se dise, bah, voilà, il faut que je m'implique.
Oui. Voilà. Je pense que ça fonctionne bien si le dialogue est équilibré, effectivement, entre des équipes de la collectivité qui ont une capacité à dialoguer.
Donc, toutes les parties prenantes soient investies au même niveau, en fait.
Tout à fait.
Tout à fait.
Alors, là, quand on vous entend, on a l'impression que la CEMOP, c'est la forme qu'il faut choisir. Pourquoi ça n'a pas été le cas sur plus d'opérations? Qu'est-ce qui est en train de se lancer actuellement? Est-ce que vous vous incitez les aménageurs à se saisir de cette possibilité, à inciter aussi les collectivités à utiliser l'option CEMOP?
Je pense que les aménageurs, je l'ai un peu souligné en introduction, les aménageurs ont quand même cette particularité par rapport à d'autres concessionnaires de projets des collectivités et de services publics, d'avoir cette culture du dialogue régulier avec la collectivité. J'ai cité l'exemple des réseaux d'eau, mais il y a d'autres types, notamment en matière de réseau, où le dialogue est beaucoup plus distendu entre la collectivité et l'opérateur. Donc, déjà, il y avait quand même, par les aménageurs, une culture du dialogue avec la collectivité. Et puis, il y a aussi un maillage assez fin d'aménageurs que les collectivités maîtrisent. Je pense aux 300 EPL d'aménagement qui existent, qui sont des SEM et des SPL pour la très grande majorité. Donc, il y avait quand même un contexte qui faisait que les termes du terrain d'épanouissement de la CEMOP étaient un peu particuliers en aménagement. Mais je vous l'ai dit, c'est une forme qui commence à se développer. Je pense que c'est important d'avoir ces retours d'expérience positifs pour montrer que ça fonctionne bien. Et il y a des collectivités aujourd'hui qui sont en train de s'en saisir. Et il y a trois consultations pour la création de ces mobs d'aménagement en cours. Ce qui montre que peut-être d'ici à la fin de l'année, on aura doublé le nombre de ces mobs d'aménagement. Il y en a en Bretagne, sur le territoire de Rennes Métropole, à Saint-Grégoire, en Occitanie avec la ville de Colombier et puis un projet également dans la Meuse.
Et je précise que ces collectivités se sont intéressées à notre projet pour savoir comment ça fonctionne. Ils sont venus voir.
C'est un peu une vitrine en fait.
C'est devenu peut-être une vitrine et on a une marque d'intérêt de pas mal d'élus qui disent, bah voilà, expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui. Donc ils nous interrogent, ils interrogent évidemment la ville. Ils interrogent aussi les conseils parce que le montage d'une société comme celle-là, notamment dans les communes qui ne sont pas très structurées, c'est très compliqué. Donc on a aussi Il existe quelques spécialistes du montage de la CMOB, des avocats, etc., qui sont là aussi pour conseiller les collectivités.
Donc, il y en a assez, justement, des spécialistes de la CMOB,
oui,
pour l'instant.
Bien sûr, oui, il y en a assez. Vrai. Mais c'est vraiment une question d'appropriation des élus, qu'ils aient conscience, qu'ils créent une société, qu'ils rentrent au capital. Donc, quand on dit on rentre au capital et qu'il y a une opération à risque, bah, il y a aussi des risques financiers derrière qu'il faut assumer si jamais ça se passait mal. Je rappelle qu'on est quand même sur des opérations de temps long, de temps très long. Donc ça peut être, ça peut effrayer
les élus. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les élus ne maîtrisent pas, ne connaissent pas tous les rouages. Et j'ai l'impression qu'il faut faire beaucoup de pédagogie au final avec eux.
L'aménagement, c'est ça en permanence, faut faire de la pédagogie. Hier, le ministre est venu. On a fait passer l'UNAM un certain nombre de messages sur l'intérêt de l'aménagement au sens large pour aider à monter les projets, accompagner les collectivités. C'est complètement ça. Et donc, la CMOP est un outil parmi d'autres et il faut convaincre.
Alors justement, il y a le slide qui montre en détail donc, la CMOP de Châtenay-Malabry. Peut-être quelques petites précisions, Nicolas, sur justement...
Le programme.
Oui, le programme.
Donc, le terrain fait à peu près 20 hectares. C'était le lieu qui accueillait l'école centrale de Paris. Donc à Châtenay-Malabry, qui a déménagé suite à une décision du ministre, c'était Valérie Pécresse à l'époque, de déménager l'école sur le plateau de Saclay. Donc 20 hectares se libéraient. Georges Siffredi, le maire à l'époque, dit qu'est-ce qu'on va faire? C'était un lieu qui fonctionnait en vase clos. Il faut que j'arrive avec une belle emprise comme ça au bord du tramway qui arrive l'année prochaine. Comment est-ce que je recrée du lien? Comment est-ce que je crée le 6e quartier de la ville? Et donc, il a fait tout ce travail en amont d'élaboration d'un projet urbain avec François Leclerc comme urbaniste. Et ça a débouché sur ce projet de 240 000 m² de droits à construire, voilà. 2200 logements, 36 000 m² de bureaux avec le siège de Lidl donc, qui va arriver également normalement courant 2023. Et des commerces et des équipements publics, des espaces publics généreux. Donc l'ambition, c'est d'en faire un quartier important et aussi un quartier innovant. Nous sommes au forum de l'aménagement durable et il y a des grandes ambitions environnementales et d'innovation qui ont été mises en place sur ce projet.
Par exemple,
il y a une innovation qui est intéressante quand même sur ce projet de déchets issus de la déconstruction de l'école centrale qui ont tous été réutilisés dans le quartier. Vous avez même mis en place une bétonneuse. Alors expliquez-moi parce que j'ai pas les détails, mais une usine
qui récupère en fait les déchets.
Oui, voilà. Tous les bâtiments de l'école centrale ont fait l'objet d'une opération de déconstruction exemplaire dans le cadre de l'économie circulaire. Donc déjà tout le second œuvre. Des bâtiments, enfin de ce qui était à l'intérieur des bâtiments, les robinets, les lampadaires, etc., ont été récupérés pour ce qu'il en restait, récupérés, réparés et revendus à des sommes très modiques à des particuliers ou à des artisans avec le soutien d'une association qui a été créée par un salarié du groupe et dans un objectif de réinsertion professionnelle. Donc ça, c'est le second œuvre. Et après, tout le béton de ces anciens bâtiments, qui était un béton de qualité, tout a été, donc à l'occasion de la démolition, tout a été récupéré, recyclé, concassé avec les machines que vous évoquiez. Et tout ce béton-là a été réutilisé dans l'opération. Pas un seul mètre cube de béton n'est sorti du terrain.
À 100%, hein, ça veut
100%,
dire
100%, et récupéré
c'est
assez rare, et il va falloir que ça se développe et que ça se mette en place un peu partout, et en forme de voirie ou en refabrication de nouveaux bétons pour les nouveaux bâtiments. Voilà, 30% des bétons d'un bâtiment proviennent du béton recyclé.
Écoutez, la présentation qui a été faite du quartier, le modèle de la CMOP paraissait aussi facilitant pour ce genre d'innovation. Est-ce que c'est ce que vous tirez comme enseignement de cette première expérience CMOP avec Eiffage?
C'est pas la CMOP qui a permis de mettre en place ces innovations. C'est-à-dire qu'on peut mettre ça en place sur n'importe quelle opération.
Ma question, c'est est-ce que ça a été un facteur facilitant?
Par contre, c'est un facteur déterminant pour le choix de l'opérateur privé de la CMOP. C'est-à-dire qu'au moment du concours, c'était un critère de choix important pour la mairie pour choisir Eiffage en l'occurrence. Donc c'est fondamental et les engagements que l'on prend sont aussi contrôlés par la municipalité dans le cadre des instances
de la CEMOP. Il y a plus de contrôle au final.
Donc il y a plus de contrôle, on a pris des engagements, on doit les respecter et oui. On nous demande où on en est. Et
on n'a pas le droit à l'erreur. Justement, en parlant d'erreur, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées lors de ce programme d'aménagement de l'écoquartier ?
Il n'y a pas eu de difficultés particulières parce que
majeure.
Justement, on a travaillé ensemble avec la mairie. À chaque fois qu'une difficulté s'est présentée, à la régler immédiatement, tout de suite, sans que les choses soient cachées, puisqu'on est obligé de se parler.
C'est plus fluide, en fait.
Donc, c'est beaucoup plus fluide.
Un petit mot peut-être sur le retour d'expérience, les habitants, puisqu'il y a des logements, vous l'avez mentionné. Un petit mot sur les retours que vous avez eus.
Alors, les premiers habitants sont arrivés l'été dernier, donc il y a à peu près 700 logements qui ont été livrés. Donc là, les premiers retours d'expérience sur même pas une année, c'est un peu compliqué de les avoir. Là, on fait des.
Quand ça va pas, ils le disent.
Hein. Quand ça va pas, ils le disent. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réclamations à la ville. La seule réclamation qu'ils font aujourd'hui, c'est puisque dans le programme, il y a 15 000 mètres carrés de commerce, donc des commerces de proximité. Bah, le remplissage des locaux commerciaux, c'est toujours lent, surtout une opération qui n'est pas terminée. Donc voilà, il y a un peu de déception par rapport à ça, mais ça va venir avec le temps et c'est normal.
Et justement, d'ici combien de temps vous pensez que ce sera que les commerces seront
ils sont déjà en partie remplis. Je vais dire un tiers des commerces qui sont remplis. Le Lidl, enfin le siège social de Lidl accueille aussi un magasin expérimental donc qui est ouvert. Donc les commerces de proximité est assuré. On a aussi plein de commerces dans le quartier alentour. Donc il y a pas de.
C'est compliqué de faire venir des commerces.
C'est oui, ça c'est compliqué de faire venir des commerces quand un quartier n'est pas fini.
D'accord.
Voilà. Bon, déjà, le commerce en tant que tel, le commerce de proximité n'est pas quelque chose de très simple, même en milieu dense. Puis il y a beaucoup de changements aussi dans les modes de consommation des habitants. Les projets qui avaient été imaginés en 2017 et une forte volonté de la mairie sur un certain type de commerce, bien entendu, on n'a pas complètement réussi. Donc, on est en train de rechanger.
Donc là, vous changez un peu de stratégie.
Ouais.
Et qu'est-ce que ce serait la stratégie, par exemple, si vous ne réussissez pas à faire venir tous les commerçants prévus ?
Non, mais ils vont venir, les commerçants.
Ils vont venir.
Il faut juste, c'est juste le temps. C'est juste
un petit message aux commerçants.
Peut-être pour terminer, sur les 300 EPL d'aménagement, est-ce que vous constatez la même volonté d'aller vers ces projets qui sont tous mixtes, tous plus exigeants environnementalement ? Est-ce que ce mouvement qui est en cours se constate ?
Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux auxquels sont confrontés les collectivités sont quand même particulièrement complexes en matière de développement de leur territoire. On leur demande d'arrêter de s'étendre sur des terres non artificialisées. On leur demande d'accueillir plus de logements. On souhaite relocaliser sur le territoire national une partie de la production industrielle. Et en même temps, il faut adapter les territoires au changement climatique, lutter contre l'effet îlot de chaleur. Beaucoup d'exigences qui sont en apparence contradictoires. L'avantage de l'aménagement, c'est que c'est une intervention à une échelle suffisamment large pour résoudre de la manière la plus efficace, je pense, j'en suis convaincu, ces exigences qui s'opposent. Donc, oui, mais c'est notre travail au quotidien, et y compris au réseau national des aménageurs, c'est un message qu'on porte très fortement. Engager des opérations pour développer son territoire, c'est la méthode la plus adaptée pour se projeter dans cette ville de demain, plutôt que de faire des opérations immobilières éparpillées, ou plutôt, encore pire, que de ne rien faire. Donc vraiment, oui, l'aménagement, c'est la bonne façon pour résoudre ces sujets-là. Et quand les collectivités s'impliquent, c'est encore plus efficace, évidemment, parce que pour trouver les bons équilibres et les bonnes réponses à ces différentes exigences, eh ben, la légitimité des collectivités est fondamentale.
Donc les élus doivent plus s'appuyer sur les aménageurs, selon vous ? Ils ne le font pas assez ?
Ils le font déjà, mais je pense qu'il faut qu'ils le fassent
davantage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes et beaucoup d'élus sont perdus. C'est compliqué.
Il y a des préjugés sur l'aménagement que certains élus ont. C'est long, c'est coûteux pour les finances de la collectivité. Ça fait l'objet de certaines crispations des habitants. Je pense qu'aujourd'hui, les aménageurs ont
un rôle à jouer.
Non seulement un rôle à jouer, mais ont des réponses techniques. Et l'opération de Châtenay-Malabry le montre bien sur cette façon de limiter, par exemple, les nuisances du chantier en recyclant sur place les fruits de la démolition des bâtiments.
Merci.
Merci beaucoup, messieurs. Et donc, merci à vous deux pour ce bel exemple de CEMOP à Châtenay-Malabry. On se retrouve tout de suite pour parler géothermie. À tout de suite.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.